Alors c'est maintenant le moment de la chronique littéraire, ce soir sur le jazz blanc. Alors je ne vous cache pas que j'ai été surpris quand Stéphane m'a communiqué le thème de l'émission. Mais vous le connaissez comme moi, c'est un mec qui en impose. Stéphane, de son vrai nom Boris Stéphanov, celui qu'on appelle le tsar du Forez, quand il propose, on accepte. Sinon il a vite fait de débarquer chez vous et d'annexer votre logement. En plus c'est bien connu, les Stéphanois détestent les Ukrainiens. Souvenez-vous du plaisir sadique dont ils ont fait preuve en 1976 en éliminant les Dynamos de Kiev dans ce qu'on appelait encore la Coupe d'Europe des clubs champions. Cela dit, il y a autre chose qui me gênait dans le thème du soir. C'est que j'avais l'impression d'en avoir parlé lors de mon dernier passage à Blood at Roots. Je suis sûr que vous vous en souvenez, c'était le jour où on avait fait péter l'audience de Radio Mon Pays. La fois où j'avais évoqué l'influence des immigrés dans l'histoire du jazz américain. Dans cette émission qui traitait de l'exil, j'avais choisi de diffuser Buy Me a Beast to Shine, interprété par les Andrew Sisters. Un classique du chant yiddish, revisité aux States façon swing, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Le jazz, musique de noir, a ponctuellement été enrichi par des immigrés, des gens sans statut qui n'étaient pas si différents des esclaves du Sud. Car les Juifs aussi ont été des esclaves, à une autre époque, à un autre endroit, du côté de l'Égypte. La comparaison s'arrête sans doute là, parce que les deux communautés diffèrent quand même par pas mal de points. Les Noirs avaient été amenés dans des territoires ruraux, alors que les Juifs s'étaient installés dans les grandes villes, surtout à New York. Les deux communautés ont quand même été associées, notamment dans Le Chanteur de Jazz, le premier film parlant de l'histoire du cinéma, dont l'interprète principal était Al Johnson, né Aza Yoelson en Lituanie, et qui s'était grimé de noir pour l'occasion. Par la suite, de nombreux clarinettistes juifs ont enrichi le jazz avec leur instrument amené d'Europe, les plus connus étant probablement Benny Goodman, qu'on vient d'écouter, et Artichaut. Ce qui me permet de rappeler, contrairement à ce que certains pourraient croire, que Artichaut n'est pas un musicien breton qui jouerait du biniou. C'est un compositeur et chef d'orchestre new-yorkais de son vrai nom Arthur Achavsky qui a entre autres engagé Billie Holiday pour une tournée dans le Sud pendant laquelle Billie ne put ni chanter, ni aller à l'hôtel ou au restaurant avec les musiciens de l'orchestre à cause du racisme ambiant. Artichaut est aussi rentré dans l'histoire pour avoir épousé quelques-unes des plus belles actrices de son époque comme Lana Turner ou Ava Gardner. Comme quoi le mec a sûrement dû souffler ailleurs que dans un biniou. Je pourrais aussi vous parler de Woody Allen, qui lui aussi s'essaye depuis des années à la clarinette, mais comme sa cote a beaucoup baissé ces dernières années, je m'en abstiendrai.
Just the asking, darling, any old time you need me, I'll be there. With love that's lasting, darling, all through the years we'll stand together, sharing the tears and stormy weather and the sunshine. We'll be yours and to chase away the blues, and any old thing you do, I'll see you through. So just remember that I am waiting, dear. If ever you want me, I'll be near. Any old time and any place where you may be. We'll be right back.
vient d'entendre Any Old Time, interprété par Artichaut et son orchestre, avec Billie Holiday. C'est un morceau enregistré en 1938. Alors, comme je suis quand même venu ici pour parler littérature, je vous ai amené un bouquin qui illustre bien ce que je viens de vous raconter. Il s'appelle Jazz Palace. Il a été écrit par une Américaine de Chicago, Mary Morris, et il est publié en France chez Liana Levy, une éditrice que je vous recommande au-dessus de tout. On est à Chicago en 1915, le Titanic a sombré 3 ans plus tôt. Le Lusitania, un paquebot britannique, vient d'être coulé par un sous-marin allemand. Lady Lehman, qui habite la capitale de l'Illinois, ne craint ni les icebergs ni les bâtiments de guerre. Il manque pourtant de périr dans le naufrage de l'Eastland, un vapeur qui circule sur un des lacs de la région. Béni à 15 ans, il livre les casquettes de l'entreprise familiale que son père Léo dirige avec rudesse. Avec lui, pas de Shabbat. Le samedi est un jour comme les autres pour gagner de l'argent. C'est ainsi que les Lehman ont quitté leur taudis pour un 4 pièces en location. Chicago est la ville où il faut voir grand, celle des abattoirs monstrueux décrits par Upton Sinclair dans la jungle. C'est la mégapole dont on envoie du blé dans le monde entier. Alors Léo Lehman s'endette pour embaucher 6 femmes slovaques qui savent faire les plus petits points du monde. Les Lehman appartiennent désormais à la classe moyenne et ils ont pu acheter un piano d'occasion pour faire donner des leçons à Lenny. Il étudie Mozart, Schubert et Beethoven avec Dimitri Markopoulos, un vieux juif grec. Mais la musique qu'il aime est celle qui fait fureur à Chicago. Celle que les musiciens venus de la Nouvelle-Orléans ont amené en remontant du sud, parce qu'après la fermeture des bordels où ils jouaient, ils ne pouvaient plus gagner leur vie. C'est ainsi que King Oliver, Jenny Roll Morton et Louis Armstrong ont rejoint la grande ville. Lady Lehman a découvert le jazz au cours de ses pérégrinations dans le South Side de Chicago en livrant ses casquettes. C'est un des quartiers de perdition avec des rues qui puent l'urine, celui des dockers et des employés du rail. Ici, on joue du jazz 24 heures sur 24. Il s'est ensuite fait la main dans un cinéma, en jouant pour accompagner les images des films muets. Mais la rencontre qui a compté pour lui est celle de Napoleon Hill, dont le prénom bien français évoque des racines louisianaises. Napoleon Hill joue tous les soirs de la trompette dans des clubs et débute toujours par le Jazz Palace. C'est un speakeasy, un établissement clandestin, où l'on vient davantage boire de l'alcool de contrebande qu'écouter de la musique. C'est une jeune femme nommée Pearl qu'il dirige depuis la mort de sa mère. On y croise aussi sa jeune sœur, Opal, qui danse sans tabou malgré ses 16 ans. Au début, les musiciens noirs se méfiaient de Lenny comme ils se méfiaient de tous les blancs qui tentaient de leur voler leur musique, la seule chose qu'ils possédaient. Mais quand Lenny posa pour la première fois les mains sur le piano du Bouge, Napoléon en est resté ébahi. Ce jeune blanc était béni des dieux. Ils vont un peu se découvrir et même enregistrer leur premier disque ensemble. Les temps sont difficiles, les parents de Lenny n'acceptent pas qu'il joue de la musique de nègre et les blancs et les noirs ne fréquentent toujours pas les mêmes plages sur les rives des lacs. D'autres menaces planent sur le devenir des musiciens. Les Bouges appartiennent à la mafia et malheur à celui qui s'en ira jouer ailleurs sans l'autorisation des caïds. C'est un immigré italien qui les dirige, un certain Al Capone. La fin de la prohibition est encore lointaine, il faut faire avec, mais ça tombe bien, Capone aime la musique. Thank you. Tiens, c'était Joe Turner, un musicien de piano stride. Alors, il n'a pas de chance, parce que quand on tape Joe Turner sur un moteur de recherche, immédiatement sort le plus connu des Joe Turner, celui qu'on appelle Big Joe Turner.
Le bluesman.
Voilà, qui est un bluesman, qui a chanté notamment dans l'orchestre de Count Basie et un peu partout. Joe Turner, alors, c'est un musicien noir, donc ça sera le seul de la playlist, mais il joue une musique qu'on aurait pu entendre à Chicago dans les années 30. Alors, il joue du piano stride, c'est un style de musique un peu...